Chapitre 44. Cinq chevauchent en avant. Se grattant distraitement sous une cape bien trop courte, ornée de broderies sur la poitrine et constellée de trous même pas reprisés, Perrine regardait d'un air méfiant les villageois qui se congratulaient. Malgré son étrange tenue et la hache glissée à sa ceinture, aucun ne lui accorda plus d'une seconde d'attention. Ourine portait sous sa cape une veste décorée sur le devant de spirales bleues, et Matt était affublé d'un pantalon bouffant dont les ourlets dépassaient du haut de ses bottes, où il avait pourtant bataillé pour les faire entrer. En matière de déguisement, c'était tout ce que les trois hommes avaient déniché dans le village abandonné. Perrine se demanda si ce bourg-là connaîtrait le même sort. C'était probable, puisque la moitié des maisons était déjà vide. Devant l'auberge, au bout de la rue, plusieurs familles attendaient autour de trois grandes charrettes lestées au maximum, leur cargaison protégée par de la toile goudronnée. Alors qu'ils regardaient les futurs exilés faire leurs adieux à leurs amis et parents, qui avaient décidé de rester, au moins provisoirement, Perrine comprit que tous ces gens évitaient sciemment de tourner la tête vers ses compagnons et lui, comme s'ils avaient appris à se défier des étrangers, y compris lorsqu'ils n'étaient pas séanchaniens. De fait, les étrangers pouvaient être dangereux par les temps qui couraient. Sur la pointe de Tomane, tous les villageois avaient fait montre de la même indifférence calculée. Jusqu'à l'arrivée des séanchaniens, ces gens avaient vécu en paix, chaque agglomération se mêlant de ses affaires sans fourrer son nez dans celle des autres. Mais ces temps paisibles étaient révolus.
« On devrait repartir avant qu'ils se décident à nous poser des questions. »
proposa Matt. Ourine ne leva pas les yeux du grand cercle noirci qui s'étendait au milieu de la place du village telle une cicatrice sur l'étendue d'herbe déjà brunie. Visiblement, personne n'avait rien fait pour effacer du sol ce stigmate géant.
« Ça remonte à 6 mois. Peut-être 7 ou 8. Et ça pue encore. »
murmura le renifleur.
« Tous les membres du conseil et leurs familles. Pourquoi les Séanchaniens ont-ils fait une chose pareille ?»«
Qui peut deviner leur motivation ?»
répliqua Matt.
« Pour tuer des gens, il semble ne pas avoir besoin de raison. »«
Ourine, tu es sûr au sujet de Fane ?»
demanda Perrine, qui évitait de regarder la zone carbonisée.
« Ourine ?»
Depuis leur arrivée, le renifleur semblait en état de choc. Et contrairement à Perrine, il ne parvenait pas à détourner le regard du sinistre site.
« Pardon, hein ? Fane ?»
Ourine huma l'air et plissa le nez.
« C'est bien sa puanteur. » À côté, la piste d'un myrdral sans la rose. Il est passé par là, mais je crois qu'il était seul. Sans troloque, à coup sûr. Et s'il avait des suppôts avec lui, il n'était pas très nombreux.
Il y eut soudain une certaine agitation devant l'auberge. Des gens criaient en tendant le bras. Pas vers l'apprenti forgeron et ses deux compagnons, mais en direction des collines qui bordaient le village sur son flanc est.
« On va rejoindre les chevaux ?»
insista Matt.
« Si ce sont des Séanchaniens... »
Perrine acquiesça, et les trois éclaireurs coururent jusqu'à l'endroit où ils avaient attaché leurs montures, derrière une maison abandonnée. Alors que Matt et Ourine disparaissaient à l'angle du bâtiment, Perrine se retourna et eut la surprise de voir une longue colonne de fils de la lumière entrer fièrement dans le village.
« Des capes blanches !»
cria-t-il en emboîtant le pas à ses amis. Matt et Ourine prirent à peine le temps d'afficher leur stupéfaction, puis ils sautèrent en selle. Chevauchant le long des maisons, afin d'être invisibles depuis la rue principale, les trois éclaireurs filèrent vers l'ouest en jetant régulièrement des coups d'œil par-dessus leur épaule. Personne ne les poursuivait apparemment. Ingtar leur avait donné la consigne d'éviter tout ce qui pouvait les ralentir. Un interrogatoire mené par des capes blanches entrait dans cette catégorie, même dans le cas où ils auraient improvisé des réponses satisfaisantes. Ayant des raisons personnelles de vouloir éviter les fils de la lumière, Perrine regardait derrière lui encore plus souvent que les autres.
« La hache dans mes mains !» Au nom de la lumière, que ne donnerais-je pas pour changer ça ?
Alors qu'une série de collines très légèrement boisées les coupait visuellement du village, Perrine commença à envisager sérieusement que personne ne les ait suivis. Tirant sur les rênes de sa monture, il fit signe à ses compagnons de s'immobiliser. Lorsqu'ils eurent obéi, non sans le dévisager dubitativement, il se concentra et tendit l'oreille. Son ouïe était bien meilleure qu'avant, et il n'entendit aucun roulement lointain de sabots. À contre-cœur, il sonda mentalement la zone, en quête de loups. Presque aussitôt, il localisa une petite meute qui se reposait dans une des collines proches du village. Le sentiment de surprise fut si fort que l'apprenti forgeron crut un moment que c'était lui qui l'éprouvait. S'ils avaient entendu des rumeurs, ces loups ne croyaient pas vraiment que certains deux pattes pouvaient communiquer avec eux. Pour se présenter, Perrine projeta l'image de jeunes taureaux, un réflexe qu'il n'avait pas pu maîtriser, et il y ajouta son odeur, comme le prescrivaient les usages en vigueur parmi les loups. Ces animaux n'étant jamais avares de rituels lors d'une première rencontre, la procédure s'éternisa. mais pour finir, Perrine put leur poser sa question. Même s'ils n'éprouvaient aucun intérêt pour les deux pattes incapables de leur parler, les loups consentirent à aller voir ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, Perrine reçut les images qu'il avait demandées. Des hommes en cape blanche grouillaient dans le village, fouillant les maisons ou les encerclant, mais pas un ne s'était séparé des autres pour chevaucher vers l'ouest, ni dans une autre direction. Selon les loups, il n'y avait personne par là, sauf Perrine lui-même, une paire d'autres deux pattes et trois géants aux pieds de corne. Non sans soulagement, mais avec une certaine gratitude, Perrine rompit le contact avec les loups.
« Les fils de la lumière ne nous suivent pas !»
annonça-t-il.
« Comment le sais-tu ? »
demanda Matt.
« Je le sais, un point c'est tout. Matt, si je te le dis. »
Matt parut vouloir faire une remarque, mais il se ravisa, puis parla quand même, mais pour dire quelque chose d'autre.
« Eh bien, si ces gens ne nous traquent pas, nous devrions aller rejoindre Ringtar et suivre avec lui la piste de Fane. La dague ne viendra pas à nous si nous restons ici.
Nous ne pourrons pas revenir aux abords de ce village, »
dit Urin.
« Et ça ne nous facilitera pas la tâche pour la piste de Fane. Mais si nous les conduisons droit sur les fils de la lumière, le seigneur Ringtar et Verin Sedai ne seront pas contents du tout. »
Perrine approuva du chef.
« Il va falloir suivre la piste un moment pour avoir un autre point de départ. Mais il faudra rester vigilant. Nous ne sommes plus très loin de Falm, et tomber sur des Sean Chania ne serait guère plus agréable. »
Alors que les trois cavaliers reprenaient leur chemin, Perrine se demanda ce que les capes blanches fichaient dans le coin. Toujours en selle, Jofram Bornald regardait ses hommes investir méthodiquement le village. L'homme aux très larges épaules qui avait fichu le camp au moment de leur arrivée lui disait vaguement quelque chose, mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus.
« Mais si, voyons. Le garçon qui affirmait être un forgeron. Comment s'appelait-il déjà ?»
Billard immobilisa sa monture devant son chef et le salua, une main sur le cœur.
« Le site est sécurisé, seigneur capitaine. »
Des villageois vêtus de vestes ou de manteaux en peau de mouton se laissaient à contre-cœur escorter vers les trois charrettes rangées devant l'auberge. Des enfants en larmes s'accrochaient aux jupes de leur mère, mais personne ne faisait montre d'hostilité. Habitués aux coups durs, surtout ces derniers temps, les adultes attendaient avec résignation et fatalisme la suite des événements. Une attitude dont Bornald leur fut reconnaissant, car il n'avait aucune envie de faire des exemples, et encore moins de perdre ne serait-ce qu'une heure de son précieux temps. Il mit pied à terre et confia les rênes de sa monture à un fils de la lumière.
« Billard, organise le repas de nos hommes. Il faut enfermer les prisonniers dans l'auberge avec toutes les vivres et toute l'eau qu'ils pourront porter. Ensuite, vous clouerez les portes et les volets. Il faut que ces gens soient convaincus que nous laissons des gardes ici. »
Billard salua de nouveau et se détourna pour répercuter les ordres. La colonne de villageois se remit en marche pendant que les fils de la lumière partaient en quête de gros clous et de marteaux. En voyant défiler les prisonniers, Bornald estima qu'il faudrait 2 ou 3 jours avant que l'un d'eux ait le courage de défoncer une porte pour vérifier s'il y avait vraiment des gardes. Ce délai serait largement suffisant pour ce que le capitaine entendait faire. Mais il ne fallait surtout pas que les Sean Chania soient avertis de sa présence aujourd'hui. En prenant la précaution de laisser quelques hommes en arrière, histoire de convaincre les confesseurs que ses forces étaient toujours éparpillées dans la plaine d'Almoth, Bornald avait réussi à conduire plus de 1000 fils de la lumière jusqu'à la pointe de Toman, puis à l'intérieur, et sans alerter personne à sa connaissance. Les trois premières escarmouches contre les Sean Chania n'avaient pas duré bien longtemps. Accoutumés à affronter des adversaires découragés, les envahisseurs n'avaient su que faire face à des fils de la lumière, déterminés à leur donner une cuisante leçon. Cela dit, les Sean Chania n'étaient pas des mauviettes. Et Bornald n'était pas prêt d'oublier le 4e accrochage, qui lui avait coûté plus de 50 hommes. Mais laquelle des deux femmes dont il avait examiné les cadavres criblés de flèches était Aes Sedai? Malheureusement, il ignorait toujours quelle était la réponse. Le capitaine prit le gobelet que lui tendait un de ses hommes et but une eau qui lui râpa la gorge tant elle était froide.
« Billard ! »
appela-t-il. L'officier à la maigreur presque maladive sauta de selle.
« Oui, capitaine. »
Quand j'attaquerai à la tête de nos hommes, Billard, tu ne participeras pas à l'assaut. Je veux que tu observes de loin, puis que tu ailles faire ton rapport à mon fils.
Mais, seigneur capitaine, je...
Ce sont mes ordres, fils de la lumière Billard. Tu comptes me désobéir ?
L'officier se figea, le dos bien droit.
Bien sûr que non, seigneur capitaine.
Bornald étudia un moment son subordonné. Billard obéirait. C'était acquis. Mais il valait quand même mieux ne pas le laisser imaginer qu'il avait pour seule mission de raconter à Dane les derniers instants de son père. En réalité, le seigneur capitaine avait glané sur la pointe d'Ottomane des informations qui seraient vitales pour Amador. Et depuis le quatrième accrochage, il savait qu'il ne reviendrait pas vivant de cette expédition. Car si les Séanchaniens le rataient, si peu vraisemblable que ça paraisse, les confesseurs, eux, ne le manqueraient pas.
C'était deux Aes Sedai, ou une seule. 30 excellents soldats Séanchaniens et 2 femmes m'ont coûté presque le double de pertes.
Quand tu auras trouvé mon fils, qui devrait être du côté de Tarvalon avec le seigneur capitaine et Amon Valda, pars pour Amador et va te présenter devant le seigneur général. Pedron Nihal en personne, tu m'entends? Tu lui diras ce que nous avons découvert sur les Séanchaniens. Ne t'inquiète pas, je te ferai une lettre afin qu'il te croie. Insiste sur un point. Les sorcières de Tarvalon ne se contentent plus de tirer les ficelles dans l'ombre. Si elles se sont ouvertement rangées du côté des Séanchaniens, il faut s'attendre à les affronter sur tous les champs de bataille.
Bornald hésita. Ce dernier point était le plus important de tous. Les sages qui siégeaient sous le dôme de la vérité devaient savoir que les Aes Sedai, malgré tout leur serment mielleux, participeraient à la bataille. Cette seule idée, un monde où les Aes Sedai mettraient le pouvoir au service de la guerre, donnait la nausée au seigneur capitaine. Du coup, la perspective de quitter la scène ne lui paraissait plus si déprimante que ça. Il restait un message qu'il tenait à faire parvenir à Amador avant de tirer sa révérence.
« Biar, dis à Pedron Nihal comment les confesseurs nous ont traités. »
« À vos ordres, seigneur capitaine. »
Voyant l'expression de l'officier, Bornald ne put s'empêcher de soupirer. Biar ne comprenait pas. Pour lui, les ordres étaient les ordres, qu'ils viennent de son capitaine ou des confesseurs. Et son credo était de les exécuter aveuglément.
« Je te donnerai également une lettre pour Pedron Nihal. »
Mais quel bien cela ferait-il au bout du compte? Une idée sans aucun rapport avec la précédente traversa l'esprit du seigneur capitaine. Troublé, il regarda l'auberge dont ses hommes finissaient de condamner les portes et les fenêtres.
« Perrine, c'était ça son nom, Perrine de Deux-Rivières. »
« Le suppôt des ténèbres, seigneur capitaine ?»«
Le suppôt présumé, Biar, présumé. »
Bornald en doutait encore. Pourtant, que pouvait être d'autre un homme qui avait des loups guerriers à son service? De plus, Perrine avait tué 2 fils de la lumière.
Je crois l'avoir vu quand nous sommes entrés dans le village. Mais c'était peut-être le forgeron local. En tout cas, je ne l'ai pas vu parmi les prisonniers.
Le forgeron est parti il y a un mois, seigneur capitaine. Certains villageois s'en sont plaints, car être obligés de réparer eux-mêmes leurs charrettes les a empêchés de filer avant notre venue.
Ce serait donc ce Perrine que vous avez vu?
Lui ou un autre, il a filé. Et il peut aller parler de nous aux Séanchaniens.
Un suppôt ne manquerait pas de le faire, seigneur capitaine.
Bornald finit de boire son eau et jeta au loin le gobelet.
Les hommes vont devoir renoncer à leur repas, Biar. Que ce soit Perrine ou quelqu'un d'autre qui les prévienne, je ne laisserai pas nos ennemis nous tomber dessus pendant que nous faisons la sieste. Fils de la lumière, Biar, fais sonner le départ.
Très haut dans le ciel, juste au-dessus des deux hommes, une silhouette noire décrivait des cercles serrés. Mais ni l'un ni l'autre ne la remarquèrent. Dans la clairière où ils avaient dressé leur camp, au sommet d'une colline, Rand révisait ses figures d'escrime. Une astuce pour ne surtout pas penser. Un peu plus tôt, il avait patrouillé avec Corinne, en quête de la piste de Fane. En binôme ou en trio, pour ne pas attirer l'attention, tous les membres de l'expédition avaient contribué aux recherches. À présent, Rand attendait le retour de Matt et Perrine, partis avec le renifleur. Hélas, ils avaient des heures de retard. Comme d'habitude, Loyal lisait. Ses oreilles frémissaient-elles à cause de l'ouvrage qu'il dévorait ou parce qu'il s'inquiétait pour ses amis? Bien malin qui aurait pu le dire. Très tendu, Uno et les autres soldats s'occupaient d'huiler leurs lames ou montaient la garde à la lisière de la forêt, comme s'ils s'attendaient à voir débouler des Séanchaniens. En revanche, Vérine semblait parfaitement décontractée. Assise sur une souche près du petit feu de camp, elle traçait des signes dans la poussière avec un long bâton. Marmonnant toute seule, elle secouait de temps en temps la tête, effaçait d'un pied ce qu'elle venait de dessiner et recommençait tout de zéro. Scellé et prêt au départ, chaque destrier était attaché à une lance plantée dans le sol.
« Le héron qui traverse les gens !»
souffla Ingtar. Assis le dos contre un tronc d'arbre, il aiguisait son épée tout en regardant les évolutions de Rand.
« Tu ne devrais pas insister sur cette figure. Elle laisse beaucoup trop d'ouverture à l'adversaire. »
Un instant,
Rand resta en équilibre sur la demi-pointe d'un pied, l'épée tenue à deux mains, en position armée au-dessus de sa tête. Puis il transféra souplement son poids sur l'autre pied.
L'âne dit que c'est excellent pour améliorer l'équilibre.
Conserver son équilibre en pleine action était toujours très délicat. Dans son cocon, Rand se sentait capable de rester droit sur un rocher en train de rouler, mais il se refusait à invoquer le vide. Sans doute parce qu'il en avait trop envie pour que ce ne soit pas suspect.
Une passe d'armes qu'on travaille trop souvent risque d'être utilisée sans réflexion, ce qui n'est jamais bon. Si tu es assez rapide, tu toucheras ton homme avec ce coup-là, mais pas sans qu'il t'ait d'abord enfoncé sa lame entre les côtes. C'est ce que tu l'invites à faire, comprends-tu? Je doute de pouvoir résister à l'envie d'embrocher un type qui se découvre ainsi, même si je sais que ça lui permettra de me frapper à son tour.
C'est pour travailler l'équilibre, rien de plus.
Rand chancela sur un pied et dut poser l'autre sur le sol pour ne pas s'étaler. Rengainant son épée, il ramassa la cape grise qui lui tenait lieu de déguisement. Mangé au mythe et élimé, le vêtement plissé était néanmoins assez épais, une bonne chose avec le vent mordant qui soufflait de l'ouest.
« J'aimerais qu'il revienne. »«
Des fichus cavaliers, approche !»
cria soudain Uno, très opportunément. Tous les hommes qui la portaient encore au fourreau dégainèrent leur épée. Certains sautèrent en selle, retirant leur lance du sol. Mais la tension se dissipa quand Urine entra dans la clairière, Matt et Perrine derrière lui.
« Seigneur Inktar, nous avons trouvé la piste. »
« Et nous l'avons suivi quasiment jusqu'à Falm, »
dit Matt en mettant pied à terre. La petite zone rose sur ses joues ne suffisait plus à entretenir l'illusion qu'il était en forme. Avides d'en apprendre plus, les soldats se massèrent autour des trois éclaireurs.
Fane voyageait seul, et Falm était sa seule destination possible. En toute logique, il doit avoir la dague avec lui.
« Nous sommes aussi tombés sur des capes blanches, »
annonça Perrine en sautant de selle.
« Des centaines. »
« Des capes blanches !»
répéta Inktar.
« Ici ! Eh bien, si les fils de la lumière nous laissent en paix, nous leur rendrons la politesse. Et s'ils détournent l'attention des Seanchaniens, nous aurons peut-être moins de mal à récupérer le corps. »
L'officier regarda Vérine, toujours assise près du feu.
« Tu vas me dire que j'aurais dû te faire confiance, Aes Sedai. Parce que notre homme est bel et bien allé à Falm. »«
La route tisse comme elle l'entend. Quand des tavernes sont concernées, ce qui arrive est toujours ce qui devait arriver. La trame avait peut-être besoin de notre retard pour que sa volonté soit faite. Elle met tout en place avec une grande précision. Et quand nous tentons de bouleverser l'ordre des choses, surtout dans les affaires de taverne, elle s'arrange toujours pour nous faire reprendre le fil du destin tel qu'elle l'a tissé. »
Dans un silence pesant qu'elle ne sembla pas remarquer, l'Aes Sedai continua quelques instants à dessiner dans la poussière avec son bâton.
« Mais à présent, je crois que nous devons réfléchir à un plan. »
dit-elle quand elle eut terminé.
« La trame nous a conduits jusqu'à Falm, où le corps de Valère doit se trouver. »
Inktar vint s'agenouiller près de l'Aes Sedai.
« Quand beaucoup de personnes disent la même chose, j'ai tendance à les croire. Selon les gens d'ici, les Seanchaniens se fichent de savoir qui entre ou qui sort de Falm. Avec Urine et quelques soldats, je vais m'introduire en ville. Lorsque nous aurons remonté la piste jusqu'au corps, eh bien, nous improviserons. »
Avec le pied, Vérine effaça la roue qu'elle venait de dessiner sur le sol. À sa place, elle traça de courtes lignes qui se rejoignaient à un bout, formant une pointe de flèche.
« Inktar et Urine. Plus Matt, puisqu'il peut sentir la dague, s'il en est assez près. Tu veux y aller, n'est-ce pas, Matt ?»«
Je peux faire autrement. Ça ne m'enthousiasme pas, mais j'ai besoin de cette arme. »
Une troisième ligne vint représenter l'esquisse d'une étoile. Puis Vérine coula un regard en biais à Rand.
« J'en suis, »
dit celui-ci.
« C'est pour ça que je suis là. »
Une lueur brilla dans l'œil de l'Aes Sedai. Afin de ne pas créer de quiproquo, Rand crut bon de préciser.
« Pour aider Matt à récupérer la dague et Inktar à retrouver le corps. »
« Sans parler de Fane, mais ça ne regarde que moi. Je dois le débusquer, s'il n'est pas déjà trop tard. »
Vérine ajouta une quatrième ligne, complétant une demi-étoile.
« Et qui d'autre ?»
demanda-t-elle.
« Moi ?»
dit Perrine, devançant Loyal d'un souffle.
« Mais j'aimerais venir aussi, »
insista Logier.
« Perrine a parlé le premier. »
lâcha Vérine, comme si le débat était clos. Elle ajouta une cinquième ligne et traça un cercle autour du dessin. Rand sentit les poils de sa nuque se hérisser. Quelques minutes plus tôt, l'Aes Sedai avait dessiné puis effacé la même roue.
« 5 chevauches en avant, »
murmura Vérine.
« Je serais très curieux de découvrir Falm, » dit Loyal. « Et je n'ai jamais vu l'océan d'Arit. De plus, si le corps est toujours dedans, je pourrais porter le coffre. »
« Je devrais être aussi du voyage, seigneur Ingtar, »
dit Uno.
« Le seigneur Rendez-vous aurait besoin d'un escrimeur de plus, si ces fichus Séanchaniens tentent de vous barrer le chemin. »
Tous les soldats acquiescèrent, comme s'ils étaient prêts à se porter volontaires.
« Ne soyez pas idiots !»
lança Vérine, son regard glacé les réduisant au silence.
« Vous ne pouvez pas y aller tous. Même si les Séanchaniens ne surveillent pas de très près les allées et venues, ils remarqueront une vingtaine de soldats. » Et même sans armure, vous ne passerez pas pour des civils. Un ou deux hommes de plus ne feront aucune différence. 5 est un nombre parfait, et il me paraît logique que les 3 taverennes fassent partie de l'expédition. Loyal, tu vas devoir rester en arrière. Il n'y a pas d'augier sur la pointe d'Ottomane. Tu attirerais beaucoup trop l'attention sur le groupe.
Et vous ?
Demanda Rand.
Oublies-tu les damanes ? En quoi pourrais-je vous être utile si je ne canalise pas le pouvoir ? Et si je le canalise, tu aimerais voir toutes ces harpies fondre sur vous? Même à distance, l'une d'elles pourrait sentir qu'une femme, ou un homme d'ailleurs, puise dans la source authentique. Le seul moyen d'éviter ça, c'est d'invoquer une très petite quantité de pouvoir.
En lui glissant ce conseil, Vérine prit soin de ne pas regarder Rand. Bien entendu, le jeune homme ne fut pas dupe. Matt et Perrine saisirent également la balle au vol.
« Un homme ?»
lança Ingtar.
« Vérine Sedai, pourquoi compliquer inutilement la donne? Nous avons assez de problèmes pour ne pas en inventer. Mais si vous veniez, eh bien ce serait... »«
Non, ce sera 5 cavaliers. »
Vérine passa le pied sur la nouvelle roue, l'effaçant à moitié.
« 5 chevauches en avant. »
Ingtar parut vouloir insister, mais le regard dur de l'Aes Sedai l'en dissuada.
« À quelle distance sommes-nous de Falm ? »
demanda-t-il à Ourine.
« Si nous partons sur le champ, nous y serons demain à l'aube, à condition de chevaucher toute la nuit. »«
C'est ce que nous allons faire. Je refuse de perdre plus de temps. Allez sceller vos chevaux, ceux qui partent. Uno, suis-nous avec les hommes, mais à distance, et en t'assurant que... »
Pendant que l'officier égrenait ses ordres, Rand étudia la roue partiellement effacée. Elle n'avait plus que 4 rayons à présent. Un détail qui glaça les sangs du jeune homme, sans qu'il comprenne vraiment pourquoi. S'avisant que Vérine le regardait, les yeux vifs et brillants comme ceux d'un oiseau, Rand s'arracha à sa contemplation et commença à rassembler ses affaires.
« Ne te laisse pas entraîner par ton imagination. Si elle ne vient pas, elle ne pourra rien vous faire. »